Bouchal Horé on Mix 92.6. Sponsored by Les Petites Étoiles Bilingual Montessori, a nurturing French and English bilingual nursery for children aged 6 months to 4 years. Find out more on lpe.uk.
Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission de radio tout en français sur Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines.
Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille et sur Instagram Bouche à Oreille UK.
Ouvrez vos oreilles!
Bonsoir Pierre, ce soir c'est Polar Polar et vous tenez à dédicacer cette séquence au Québécois François Barcelo qui le 24 mai a fermé les yeux à l'âge de 84 ans. Alors moi, tout comme Aline, son existence m'était inconnue.
Salut les filles, salut les auditeurs et auditrices francophones et francophiles. Bon, eh bien écoutez, oui, François Barcelo, ma très chère Élise, était l'auteur du roman noir Cadavre. Alors, il a été le premier Québécois à être publié dans la mythique série noire de Gallimard en 98. Bon, c'est un titre qui figure parmi ses plus célèbres et figurez-vous qu'il avait été adapté au cinéma en 2009 par Éric Canuel. C'était avec Patrick Huard et Julie Le Breton qui étaient en fait les rôles-titres. François, c'était un écrivain prolifique. Il a signé près de 80 livres. Que ce soit des romans pour adultes teintés d'humour noir, ça va de soi, que des livres pour la jeunesse qui lui ont valu plusieurs récompenses, dont le prix du gouverneur général en 2007 pour La fatigante et le feignant. C'est rien que le titre qui va avec.
Son dernier roman s'appelait L'homme au bout du monde et il est paru il y a quelques mois.
Et c'était au mois de mars, pour vous dire.
Pierre, je vous coupe, c'est pas plutôt L'homme au bout de la corde ?
L'homme au bout de la corde, je vous ai dit l'homme au bout du monde.
Oui.
Mais pour moi, la corde, c'est tout un monde, c'est un lapsus. Alors, que vous dire de plus après cette judicieuse remarque, Élise ? Que ses dernières volontés en disent long sur sa personnalité, sur ce qui comptait le plus pour lui. Car voyez-vous, Élise, son unique souhait fut que ses lecteurs achetassent un livre québécois chez un libraire indépendant.
De l'usage du subjonctif. C'est effectivement très, très émouvant, Pierre. Et j'ai l'impression que François Barcelo cultivait une humilité non feinte, authentique pour tout dire. Alors Pierre, le vaisseau Frangloss qui parcourt la galaxie francophone a choisi ce soir de partir à la rencontre d'un auteur français et une autrice belge.
Vous savez, j'aime les jeux de mots et vous allez les comprendre a posteriori.
Bon,
je vous confie que le premier roman de ce soir est un coffre-fort de la littérature contemporaine francophone et qu'il l'affiche bien.
D'accord, éclairez ma lanterne car je ne vois absolument pas où vous voulez en venir là.
Eh bien, Élise, l'auteur se prénomme Simon, mais son patronyme est Fiché, comme les célèbres coffres-forts français. Simon, c'est un baroudeur, il parcourt le monde caméra au point et ses reportages sont régulièrement percutants. Et figurez-vous que si cette assaise, que sont tout à la fois la focale et le recul sur les petits riens, qui font de cet auteur un guetteur et un observateur hors pair pour le plus grand plaisir de celle ou celui qui le lit. Alors, l'opus de ce soir s'intitule Tornade et je vous garantis que les pages décoiffent. On traverse l'Amérique dans les pas de deux chasseurs d'orage français. Un périple aussi rempli de temps morts au cours desquels défilent l'Amérique des grands espaces, celle de Jacques Kerouac. Et j'insiste sur l'accent aigu, même s'il ne figure pas dans les dictionnaires, car Aline et Élise, il s'appelait en réalité Jean-Louis Lebris de Kerouac.
Ah bon ? Il est français, alors ? Moi, je pensais qu'il était né quelque part dans le Massachusetts.
C'est une histoire très curieuse. Dans les premières années du XVIIIe siècle, à Huelgoat, dans le Finistère,
Mmh, autrement dit en Bretagne, Pierre, je précise cela pour les auditrices et auditeurs francophones et francophiles peu familiers avec la carte de France.
Ouais, donc Aline, dans cette localité se trouve une maison ayant appartenu à un certain Urbain François Le Bihan, sieur de Kervoac. Bon, ça, Aline, c'était 1702-1736.
T'étais pas né.
Il sera contraint, ce brave Urbain, qui, vous l'allez voir, n'était pas très urbain, à partir, à quitter la maison. Son père, qui était un honorable notaire du roi, nommé François Joachim de Kervoac, lui intime l'ordre de quitter la Bretagne à la suite de vols commis à Quimper. Bon, ou Quimper et Saint-Paul-de-Léon, comme on dit en breton, Castelpaol. Alors, ce turbulent rejeton est ainsi expédié manu militari aux colonies. Et les colonies en question, c'était la Nouvelle-France. Alors, Urbain, François Le Bihan s'y installe, bon gré mal gré. Si on est aux environs de 1721-1722. Puis, il vient coureur des bois. Il poursuit allègrement, j'oserais dire, ses friponneries. Et il est ainsi contraint, sous peine de prison, de se marier en 1732 à Cap-Saint-Ignace au Québec, après avoir déshonoré une très, très jeune fille nommée Louise Bernier. Alors, Aline, Élise, au recteur de la paroisse, ce gredin va donner un faux patronyme, un de plus, afin sans doute de brouiller encore un peu plus les pistes. En 1727, dans un acte notarié, il avait signé Louis-Alexandre Le Bihan de Kervoac. Ce sacripant se fait également appeler parfois Maurice Louis Kervoac, ou encore Le Brice de Kervoac, ou alors le dernier dernier, Le Bihan de Kervoac. Bon,
rien que ça.
On est, il faut dire, à cette époque-là, assez peu regardant sur les patronymes. Et l'exil, je dois le dire, permet parfois de se refaire une dignité à défaut d'une virginité. Bah, de cette union, 13 enfants naîtront. Urbain François Le Bihan meurt à l'âge de 34 ans, laissant à sa veuve une tripotée de marmots et surtout une montagne de dettes.
Ben merci, c'était très intéressant, mais revenons, s'il vous plaît, à cette filiation littéraire de Simon Fichet que vous affirmez déceler dans sa description des grands espaces de l'Amérique.
Impossible de ne pas associer l'écriture de Fichet à John Steinbeck et à une lecture, je dirais, assidue des romans d'aventure comme ceux de Melville.
Ah, Herman Melville et son totémique Moby Dick et le capitaine Ahab. Herman Melville qui fit, c'est curieux, après l'évocation de Kerouac, la connaissance de son mentor et futur beau-père, Nathaniel Hawthorne, dans le Massachusetts, autre auteur notable. Hein, ça, je vous impressionne par mon savoir, je pense.
Ah ça, je suis bas. Mais je ne doute pas, Aline, tout comme Élise, de votre culture littéraire. Et finalement, ben, ça en... Tout le monde en profite, hein. Tous nos auditeurs en profitent. Alors oui, Aline, La Tornade, c'est un peu, je dirais, le Moby Dick de Simon Fichet. Alors, le capitaine Ahab se fait d'ailleurs punir, je ne sais pas si vous vous souvenez, par l'objet de son obsession. Mais comme Fichet, eh bien, il va à peur de la tornade et à peur que cette tornade se venge de lui et de ses compagnons d'avoir voulu, en quelque sorte, défier la mort impunément. Alors, dans Tornade, les aventiers se nomment Roger Hill. Bon, il y avait déjà sur le terrain, mais ça, bien avant la sortie du film Twister, que je vous rappelle, c'était en 96, dont le succès a quand même contribué à l'essor de la discipline. Il y avait eu Craig Johnson, vous vous souvenez bien, hein, c'était le leader des Tornado Hunters, dont les tracks spectaculaires ont donné lieu à une série télévisée du même nom, qui était, je dois le dire, assez chargée d'adrénaline. Bon, c'est ces célébrités du milieu font leur apparition au détour d'une pause sur une aire d'autoroute ou à proximité d'un motel dans une zone où l'orage s'apprête à frapper.
Et puis Twisters avec un S qui est sorti l'été dernier aussi. Ça, on continue.
Et oui.
Les chasseurs de tornades, ça plaît à toutes les générations. Mais Pierre, du coup, c'est un roman ou c'est un reportage ?
Ben, Élise, figurez-vous que Fichet, c'est d'abord un journaliste. En 2015, on lui propose comme sujet de reportage de suivre deux chasseurs de tornades français qui était aux États-Unis. Alors Simon, eh bien, il va surtout s'emballer par la perspective d'un road trip américain. Puis finalement, regarde plus près, le phénomène qui va l'intéresser pour les prochaines semaines commence tout de même à l'inquiéter un peu. Ces nuits, alors, ce peuple de cauchemars dans lesquels il se retrouve, poursuivi par des vortex qui cherchent à le happer, au milieu d'un chaos de tôles broyées et de matériaux explosés. Alors, le voilà pourtant embarqué dans ce tournage, réalisé par Tornado Alley, aux côtés de Alexandre Paré, pour une émission qui s'appelait Le 13-15, le samedi sur France 2. Et puis après, il y a eu Laetitia, la physicienne spécialiste de la foudre, et puis Mathieu, météorologue. Bon, 10 ans plus tard, en tout cas, Simon Fichet a éprouvé le besoin de relater ce qui fut son expérience, c'est quelque chose. Mais c'est plus aujourd'hui un témoignage, mais pas n'importe quel témoignage. C'est vraiment l'expérience qui est accompagnée d'une forme de stress, que je dirais post-traumatique. Donc, en réponse à cette obsession, il s'est alors mis à noircir des carnets par couche sur le papier de ce qu'il a vécu personnellement durant l'aventure. Alors, ma chère Élise, Aline, ce récit qui est intitulé Tornade et qui a été édité chez Martialik, qui est une spécialiste, c'est une émission d'édition qui est assez intéressante parce qu'elle est spécialisée dans ce qu'on appelle Creative Nonfiction, c'est-à-dire la littérature du réel. Hein, et c'est-à-dire que vous avez des histoires vraies qui sont écrites avec une certaine exigence stylistique. Bon, toujours est-il qu'en un peu plus de 200 pages, on se laisse facilement embarquer dans ce périple absolument haletant où la tension ressentie par le narrateur et racontée dans un présent tendu à l'extrême est assez communicative. Élise, au fil des chapitres, on s'aperçoit que les cumulonimbus deviennent des paysages disséqués dans le moindre détail afin de prévoir leur évolution. Et le réalisateur décrit abondamment ces reliefs sombres et menaçants, cette base nuageuse qu'il qualifie de aussi noueuse que le cou d'un taureau. Alors, vous avez des visions auxquelles le reporter a été confronté vont prendre vie presque instantanément grâce aux mots imagés qui ont tôt fait de se transformer en sensations. Alors, comme hypnotisé face à ces sombres nuages qui tournent sans fin, Fichet évoque à certains moments de tornade une expérience quasi mystique. Ainsi, Aline, Élise, il ose écrire. Je voudrais m'y blottir, m'y faire dorloter comme un galet dans la marée. Et au même instant, je voudrais fuir loin d'ici, loin de cette bouche qui menace de m'avaler. Bon, encore plus qu'il sent, le phénomène finit par prendre corps, à se personnifier, comparé à une immense ballerine qui tourbillonne sur elle-même.
Mais alors, Pierre, c'est une forme de récit dont je n'imaginais même pas que ça peut être la niche d'une maison d'édition, en fait. Et dites-moi un peu, cette forme de dolorisme tout le long du livre, c'est une espèce de complainte égocentrique sur son trauma, est-ce qu'on peut dire ça ?
Écoutez, Élise, cette écriture, elle n'est pas vraiment nouvelle. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à John Krakauer. C'était un écrivain qui était aventurier, un enquêteur tout-terrain, qui est né lui aussi de Massachusetts. Et il est connu pour son expérience d'alpiniste. Mes chères petites complices, je comprends ce que vous exprimez. C'est aussi l'écueil auquel je pensais être confronté jusqu'à ce que surgisse la rencontre avec des victimes des cyclones. Ces personnes qui voient leur vie balayée en quelques minutes. De plus, dans ce livre, j'ai découvert un organisme dont, j'avoue, j'ignorais l'existence. C'est le Storm Prediction Center.
Ah d'accord, bah, vous nous invitez donc à entrer dans cette fresque spectaculaire et sensationnelle, dans tous les sens de ces termes. En tout cas, merci beaucoup.
On rappelle le titre, s'il te plaît. C'est Tornade et l'auteur, oui. Simon Fichet.
Ah, parfait.
Voilà. Alors, on passe vite fait en Belgique parce que le temps en presse.
Avec un roman qui s'appelle Ineffaçable au pluriel.
Alors oui, avec Clarence Pitz. Alors, je dois dire, c'est le second polar de la Belge qui a déjà été primé à 2 reprises. Alors, nous nous trouvons à Bruxelles dans la période post-attentat. Il y a des graffitis, certains d'ailleurs à connotation sexuelle, qui fleurissent sur les murs. Une équipe de policiers est chargée d'en retrouver le ou les auteurs. Et puis, il y a une autre équipe d'enquêteurs qui, elle, est chargée de résoudre des crimes d'une extrême sauvagerie. Puis, tout à coup, il y a un patron policier qui décide de mettre sur le coup un de ses subordonnés cantonné aux archives. Bon, le type est plutôt considéré par ses collègues comme un loser, un has-been, pour parler très mal le français. Le lien entre graffiti et crime. C'est alors qu'une course contre la montre s'enclenche pour éviter d'autres atrocités. C'est bien écrit. La chute du récit est des plus surprenantes. Élise, Aline, dire que j'apprécie cette autrice est peu. J'ai dans ma liste de livres à lire Malédiction, que je vais faire tourner dans quelques jours parmi les cercles littéraires que j'anime en Hainaut français et en Belgique.
Bah Pierre, nous voyons qu'elle a su vous transporter dans cette sarabande. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette autrice ?
Bah, écoutez, Élise, après avoir dirigé quand même ce qu'on appelle le casier judiciaire de Bruxelles pendant 7 ans, Clarence Pitts change radicalement de carrière pour devenir, tenez-vous bien, professeur d'anthropologie et d'histoire de l'art. Elle se lance dans l'écriture, on est dans les années 2017, et puis elle entame une série de romans qui mêlent culture et suspense. Alors, je me souviens de son premier livre, ça s'appelait « La parole du chacal ». C'était un thriller absolument atypique qui, mettait les droits au cœur parce qu'il se déroulait au Mali. Et figurez-vous que ce livre, il avait été finaliste du concours VSD du meilleur thriller, et ça, c'était en 2018. Puis ensuite, elle a publié aux éditions IFS en octobre 2020 un autre roman qui s'appelait « Meurs, mon ange ». Et ce livre, figurez-vous, a remporté le prix de l'auteur belge en 2022 dans la catégorie thriller. C'est absolument incroyable. Alors, il y a eu aussi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, « Les enfants du serpent ». Alors là,
dit quelque chose,
là, Clarence Pitts, elle renoue avec Bruxelles et l'Afrique. Et elle va signer vraiment un récit, mais hyper poignant, à la fois brutal et profondément humain. Alors, lui aussi, il a cueilli d'innombrables lauriers, notamment ce qu'on appelle le prix du coquelicot noir, le prix Lumière des mines noires, le prix Escargot noir, le prix Tora Nera, le prix Noirceur, donc vous voyez bien Noirs. Hein.
C'est le conducteur, là, quand même, au niveau de la couleur.
Noir, vous rappelez ?
Oui, les sœurs noires.
Prix Noirceur et le prix des mordus de thrillers. Clarence Pitts écrit également, figurez-vous, pour la jeunesse. Et ça, elle a un autre éditeur, c'est les éditions Ozu.
D'accord, c'est peut-être moins noir. En tout cas, merci Pierre pour ces deux fantastiques chroniques et on vous dit à bientôt.
Bouchard Horé on Mix 92.6, sponsored by Les Petites Étoiles Bilingual Montessori, a nurturing French and English bilingual nursery for children aged 6 months to 4 years. Find out more on lpe.uk.